C'est un plaisir de vous accueillir aussi ce matin dans cette assemblée et c'est un plaisir d'ouvrir la Bible avec vous. Et donc je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Matthieu, donc l'évangile selon Matthieu au chapitre 13. Et ce matin j'aimerais lire quelques paraboles, comparaisons que Jésus fait avec le royaume de Dieu. Si vous utilisez ces Bibles blanches, c'est la page 628. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est notre plaisir de vous offrir une de ces Bibles. Donc si jamais, faites peut-être un geste et puis quelqu'un viendra vous apporter une Bible. Pour être franc, ce message que je vous donne ce matin, il est inspiré d'une prédication que j'ai moi-même entendue à l'Institut biblique belge. Et donc, il y a une base de cette écoute-là, de cette prédication que je veux reprendre ce matin avec vous. Si vous étiez là la semaine dernière, on avait lu dans le livre de Daniel, au chapitre 2, on avait vu ce fameux rêve que Nebuchadnezzar avait fait. Il y avait cette grande statue avec plusieurs parties. Et puis finalement, il y avait une chose étrange, une pierre, une petite pierre qui s'était détachée sans qu'il y ait d'intervention extérieure. Elle s'était détachée d'elle-même, si on peut dire, et elle était descendue, dévalée la montagne. Elle avait renversé cette statue qui était l'image de tous ces royaumes qui se succèdent sur la terre. Et non seulement elle avait renversé ces royaumes, mais elle avait pris toute la place. D'une petite pierre, elle était devenue une grande montagne qui remplissait jusque les extrémités de la terre. Il y a un royaume qui est en train d'arriver, qui va supplanter tout autre royaume que vous connaissez, qui va supplanter tous les autres et remplir toute la création. Et peut-être ce matin, vous êtes en train de dire, mais on a du mal des fois à voir ça. Peut-être que vous êtes comme moi, vous dites, ok, j'entends la Bible, j'ai lu Daniel, je me dis c'est magnifique, c'est tellement clair en termes de prophétie, des événements qui arrivent. Et en même temps, quand on regarde dans le quotidien, des fois ça semble un peu loin de voir ce règne arriver. Peut-être vous vous découragez, peut-être vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être un disciple de Jésus? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de miser dans ce royaume, de rentrer dans ce royaume, d'en faire partie? Alors, je vous invite à lire avec moi ce passage de l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Tout le chapitre 13, en fait, Jésus donne pas mal d'explications sur ce que c'est le royaume de Dieu, sur sa croissance. Vous pouvez lire la parabole du semeur, vous pouvez lire la parabole de l'ivraie, la parabole de la graine de moutarde qui devient un arbre dans lequel tous les oiseaux trouvent où loger. Mais ce matin, je vais me concentrer à partir du verset 44, donc jusqu'au verset 52. Et j'espère que vous serez encouragés par ces lectures. Ok, on lit ensemble. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, Seigneur, répondirent-ils. » Et il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça vous a peut-être pas échappé qu'au début du passage, Jésus parle d'un trésor. Et puis à la fin, on revient sur cette idée de trésor dans lequel on retourne puiser. Et au milieu, il y a cette fameuse histoire du filet avec les poissons. Et là, on a peut-être un petit peu plus de mal à comprendre. Alors, j'espère pouvoir vous montrer comment Jésus nous montre ce matin que le royaume des cieux dont il est en train de parler, qu'il est en train d'inaugurer, est inestimablement précieux. C'est au-delà de tous les calculs que tu peux faire. C'est précieux à un point que tu n'as même pas de parole pour le dire. Et ce caractère précieux du royaume de Dieu, il se révèle, il est visible à la lumière de l'éternité, à la lumière de la fin de toute chose. Alors le royaume des cieux est inestimablement précieux. Regardez un peu avec moi. Dans cette section, le chapitre 13, Matthieu nous rapporte une série de paraboles de Jésus à propos du royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. C'est assez intéressant que Matthieu parle du royaume des cieux, et la première comparaison qu'il va faire, elle est très terrestre, elle est même sous terre. C'est un trésor qui est enfoui sous la terre. Alors, avant de regarder plus en détail quelques-uns de ces enseignements de Jésus sur ces aspects du royaume, je voudrais juste peut-être prendre un petit moment pour rappeler ce qu'il n'est pas. Le royaume des cieux n'est pas un royaume géographique. Jésus dit, on ne peut pas aller ici pour dire, voilà, Jésus est là, voilà le royaume des cieux. Et si vous entendez ce genre de personne qui vous dit, venez ici, on a trouvé le royaume, ou venez là-bas, on a trouvé le royaume, il nous avertit de ne pas courir à droite, à gauche, sur la terre, pour essayer de trouver ce royaume géographique. Il y a un film qui date maintenant d'il y a quelques années, qui s'appelle Le Royaume des Cieux, où on voit cette fameuse période des croisades, où, et donc l'histoire raconte d'un forgeron, voilà, qui se retrouve embarqué à hériter d'un royaume. Donc, dans la Terre Sainte, en Palestine, au temps donc, des croisades. Et donc, puisqu'il n'a plus la possibilité de rester en France, pour différentes raisons, je ne vais pas spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, donc il se retrouve en tout cas là-bas, et il doit défendre un royaume en Palestine, à la fois de personnes qui veulent renverser l'idéal de paix, etc., de sacralité qu'il y a dans cette région-là du monde à l'époque. Et puis aussi, il doit le défendre contre les ennemis extérieurs. Si vous avez vu ce film, et si vous avez entendu parler de cette histoire de l'humanité, c'était ça la grande erreur, c'est qu'à un moment, certains ont imaginé que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pouvait être instauré sur cette terre en l'état. Il pouvait être un royaume géographique, on pouvait définir les frontières et les garder et les défendre. Mais ce n'est pas de ce royaume-là que Jésus parle. Le royaume des cieux n'est pas non plus Israël, à la fois dans ses frontières géographiques, ni en tant que peuple. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, très tôt, on a des références à la Syrie. La Syrie, c'est bien en dehors des frontières d'Israël. Et la renommée de Jésus, elle va jusqu'en Syrie. Et il y a des gens de la Syrie qui sont en train de venir vers Jésus. Vous vous rappelez peut-être la femme syro-phénicienne qui vient prier Jésus d'intervenir en sa faveur. Et Jésus lui dit, bah, tu sais, c'est d'abord pour les brebis d'Israël que je suis venu. Et elle a cette foi-là qui s'exprime dans cette parole. Mais même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et en fait, Jésus l'a poussé à cela, en fait, à exprimer sa foi, à dire « Si tu n'interviens pas pour moi, Jésus, je suis foutu. » Ça, c'est la foi. Quand on n'a plus rien d'autre en soi et on mise tout sur Jésus, ça, c'est la foi. Donc, ce royaume-là, il se définit non pas géographiquement, non pas dans une certaine ethnie sur la terre, mais en fait, Jésus dit lui-même « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et dans toutes les béatitudes, au début de Matthieu, il montre que c'est une attitude de cœur qui nous permet d'être héritiers de ce royaume. Et c'est un royaume qui recouvre quoi ? On hérite quoi ? On hérite la terre, on hérite la création, on hérite de tout ce qui appartient à Dieu. De nouveau, dans le livre, pour rester vraiment bien dans le contexte, au Matthieu chapitre 28, à la fin, vous connaissez très bien ces paroles. Jésus s'approche des disciples et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. sur toute la terre, pas juste la Palestine. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est exactement ce que les prophètes avaient annoncé déjà dans les temps anciens. Et je mentionne juste Habacuc au chapitre 2, versets 13 et 14. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers? Tout ce qui est en train d'arriver à l'époque d'Habacuc n'est pas très réjouissant, l'annonce de l'invasion des Babyloniens. Et voici ce que Habacuc réfléchit, il dit « Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Ah, peut-être vous avez eu la joie de faire un peu de farniente au bord de la plage ou au bord de l'océan. Et tout ce que vous avez vu, c'est qu'une petite partie de la mer. Parce que ce qu'il y a d'essentiel à voir, c'est la profondeur de la mer, n'est-ce pas? La mer est plus profonde que les montagnes visibles sur Terre sont hautes. La faille, je ne sais pas où, au Pacifique, c'est moins 11 000 mètres. Et le plus haut sommet sur la Terre visible, c'est 8 000 et quelques, n'est-ce pas? Et Habacuc et les prophètes, et Jésus dit, voilà, ça y est, c'est accompli en moi. Il dit que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir toute la terre, comme l'eau recouvre le fond des mers. Encore une chose, que le royaume des cieux n'est pas, donc ce n'est pas un royaume physique, premièrement. Bien sûr, quand Jésus arrive, quand le roi est là et qu'il inaugure son royaume, il fait l'annonce claire de comment va être son royaume, et on s'aperçoit que tout au long des évangiles, dans l'évangile de Matthieu, on voit des guérisons. On voit des gens délivrés. Et il y a bien un impact physique. Ici, nous sommes une représentation de ce royaume. Il y a bien une réalité physique de ce royaume dans notre rassemblement juste ce matin. Mais premièrement, le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique, où on est assuré de toute guérison, où on est assuré de la vie parfaite. Ce n'est pas un royaume politique où l'Église ou où Jésus serait venu mettre en place un système politique pour gérer la société. Non, le royaume des cieux, alors qu'est-ce que c'est? Il est inauguré par la venue du roi, le Messie. Le Messie, c'est-à-dire celui qui est choisi pour être roi. Il recevait une onction, celui qui est oint. Et ce Messie n'est personne d'autre que Dieu, le Fils incarné. Les quatre premiers chapitres de Matthieu nous révèlent cela. Et quand Jésus arrive, voilà ce que nous lisons au chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, dès que l'identité du Messie est bien claire pour tous, alors Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». Et vous pouvez lire dans Marc, vous pouvez lire ailleurs dans les évangiles, la prédication de Jésus, c'était « Le royaume de Dieu est proche, parce que le roi est arrivé. » Et il faut changer d'attitude, se repentir et croire pour rentrer dans ce royaume. Le royaume de Dieu, alors, est défini par la présence du roi, qui établit son règne par sa parole. Matthieu chapitre 7, Jésus dit à tous ceux qui veulent l'entendre, tu veux construire ta vie sur quelque chose de solide, d'éternel, alors écoute la parole et mets-la en pratique. Tu seras comparable à quelqu'un qui construit sur du roc et pas quelqu'un qui construit sur du sable. Dans le contexte encore très immédiat de notre chapitre 13, Jésus vient d'expliquer la parabole du semeur, où sa parole est comme semée dans les cœurs, dans différents terrains. Et ce sont ceux-là qui reçoivent sa parole, qui la laissent pousser, grandir en elle, prendre racine, qui vont produire du fruit. Le royaume des cieux, on y entre en se repentant et en croyant. Faire partie du royaume des cieux, c'est avant tout entrer dans une relation spéciale alors avec le roi de ce royaume. Une relation d'allégeance, de soumission, dans laquelle on abandonne la révolte et on soumet sa vie à celui qui règne. Jésus, justement, est en train de parler à la foule dans Matthieu 13 et il enseigne à nouveau sur la condition pour entrer dans son royaume, sur la valeur infinie de ce que tu possèdes si tu es citoyen de ce royaume. Et il utilise deux comparaisons, des similitudes qu'on a lues quelques temps plus tôt. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable, ou il ressemble, ou il est comparable à. Et tout ce qui va expliciter cette comparaison, ce avec quoi Jésus fait la comparaison, ce n'est pas simplement le trésor ou la perle, mais c'est la situation globale de ces deux hommes, soit l'un qui trouve, l'autre qui cherche une chose de très grand prix. Alors un homme, un jour, probablement un travailleur journalier, on l'envoie dans un champ pour le compte de quelqu'un, et voilà que, alors qu'il bêche, toc, quelque chose sous sa pioche. Peut-être il n'avait pas choisi de creuser là, mais voilà qu'il trouve un trésor. En réalité, Jésus ne décrit pas le processus, mais ce qui compte n'est pas vraiment comment il trouve ce trésor, mais le fait est qu'il tombe dessus, ça, il ne s'y attendait pas. Et quand cet homme trouve ce trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il le referme, il referme le trou, il va tout de suite se mettre en route pour savoir s'il peut acquérir ce champ. Il ne se met pas en répit jusqu'à qu'il ait la possibilité d'acheter ce champ. C'est un champ qui lui coûte tout ce qu'il a. Et quand on écoute les paraboles de Jésus, ça semble un peu familier. Ouais, un homme, il est prêt à acheter un champ, bah ok, c'est dans le domaine du réel, on comprend très bien ce que c'est. Mais à un moment, dans ces histoires, et c'est là le point que Jésus peut mettre en avant, il y a quelque chose qui nous choque. Cet homme, il est prêt à vendre tout ce qu'il possède pour un trésor, pour un champ. La deuxième comparaison, elle est pareille. On voit un marchand de perles. C'est un négociant, il en a plein des perles en fait. À la limite, le travailleur, il n'avait pas de trésor lui. Mais ce marchand, lui, il en a tout plein dans son commerce. Il cherche les plus belles perles, les plus précieuses. Il a l'œil ouvert, il est actif dans sa recherche. Mais lui aussi, quand il a trouvé cette perle précieuse, il vend tout ce qu'il possède pour cette seule perle-là. Elle dépasse tellement en qualité, en préciosité, tout ce qu'il possède, qu'il est prêt à renoncer à tout ça, parce que ça devient plus rien du tout pour lui devant la valeur de cette seule perle. Le travailleur journalier n'était pas quelqu'un de très fortuné probablement. Le marchand de perles, lui, il avait déjà un commerce, il fait un commerce de luxe, plutôt un homme riche. Il y en a un qui découvre, comme par hasard, ce trésor dans ce champ, un autre qui recherche activement ce qui est précieux dans ce monde. Mais les deux sont au même point, n'est-ce pas? Quand ils réalisent le caractère précieux du trésor, de la perle qu'ils ont trouvée. Et Jésus dit, voilà, trouver le royaume des cieux, c'est comme être dans la situation de ces deux personnes. C'est découvrir que Christ est tellement précieux, que être en relation avec le roi a une telle valeur que tu peux laisser tout ce que tu possèdes, absolument tout. Tu n'as pas besoin de regretter quoi que ce soit à laisser en arrière parce que tu sais que même en laissant ça, tu n'es pas en train de perdre quoi que ce soit. Au contraire, tu gagnes même quelque chose de plus précieux. Car Christ est en réalité absolument tout ce dont tu as besoin. Et rien en dehors de Christ ne peut satisfaire. L'apôtre Paul avait fait cette expérience. Trouver Christ, c'est un gain pour moi. Et je considère tout le reste comme des ordures dans ma vie. Il dit ça dans Philippiens 3. Alors, être citoyen du royaume des cieux, être chrétien, n'est-ce pas renoncer à soi, à son royaume personnel, pour suivre le roi. Et selon Jésus, appartenir au royaume est un trésor hyper précieux. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est en train de nous encourager à voir le caractère précieux de ce royaume? Au contraire, beaucoup de voix autour de nous nous disent le contraire. Non seulement ils essayent de nous vendre des choses comme précieuses, alors qu'en réalité c'est du toc, et à nous d'être vigilants. Le négociant de perles, il ne voulait pas se faire arnaquer. Est-ce que tu veux te faire arnaquer pour ta vie? Il y a encore plus précieux qu'une perle. Le monde essaye de vendre des choses qui ne satisfont pas en essayant de promouvoir le caractère précieux de toutes ces choses-là. Et en réalité, c'est du toc. Et en plus de ça, non seulement il essaye de te vendre la camelote, et il essaye de te décourager. Vraiment, être chrétien, c'est gâcher sa vie. Tu renonces à tout pour Christ, mais c'est de la folie. Pourquoi tu ne profites pas des richesses ici-bas? Pourquoi tu ne profites pas de telle ou telle relation? Alors on doit revenir au pied du maître et écouter Jésus qui nous dit exactement le contraire. Regardez la réaction de ces deux personnes quand elles ont trouvé le trésor. Ce gars-là qui était parti juste pour essayer de gagner sa vie, tant bien que mal, dans sa journée, il tombe sur un trésor. Et quand il trouve ce trésor, quelle est la chose qui jaillit dans son cœur? La joie. Dans sa joie, il retourne chez lui, il fait le paquet de tout ce qu'il possède, et il vend tout pour avoir ce trésor. Le marchand de perles. Toute sa vie, il a cherché les plus belles perles, il a essayé de négocier les meilleurs prix, de montrer la valeur de ce qu'il avait. Mais quand il trouve cette perle-là, il abandonne tout son commerce. C'est fini. Et maintenant, il vit avec cette seule perle-là. Est-ce que c'est pas un changement de vie un peu excessif? Ça dépend. Si on estime bien la valeur du royaume, si ce qu'ils font, cet homme donc dans le champ et ce marchand de perles, si ce qu'ils font est en adéquation avec la valeur de ce qu'ils ont trouvé. C'est vrai, tout vendre pour un paquet de chips, ça c'est excessif. Ça te conduit nulle part. Mais renoncer à tout pour le royaume des cieux, Jésus est en train de dire, ça, c'est vraiment pas excessif. C'est la seule démarche raisonnable en réalité à faire. Du coup, je fais une petite pause ici pour qu'on s'interpelle un petit peu les uns les autres. Il s'agit d'une attitude, premièrement, par rapport à ce qu'on entend de Jésus qui nous parle du royaume des cieux et qui a des conséquences pratiques pour notre vie. Je ne sais pas où les uns les autres en sont ici, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Il y en a certains qui sont en train d'explorer la foi. Et ce passage ici est en train de nous dire que connaître Christ, ça, c'est une valeur inestimable. Alors la question que je pose, est-ce que tu as remarqué la valeur de Christ? Est-ce que tu es en train de bien comprendre ce que Christ est en train de dire et ce qu'il propose? Entends-tu son appel à entrer dans le royaume? Ne te décourage pas dans ta recherche comme ce marchand qui cherchait des belles perles. Toi aussi, si tu cherches, tu trouveras, parce que Dieu a dit qu'il se laisserait trouver. Et j'ai une petite question aussi pour nous, peut-être qui sommes dans la foi, qui sommes entrés dans ce royaume, qui marchons pour le Seigneur, ou qui essayons de le faire du mieux qu'on peut, en ayant lutte les uns avec les autres, les uns et les autres dans ce domaine-là. Et peut-être quelque chose qui pourrait nous aider, c'est de revenir à la joie du début. Est-ce que tu as